Avocat, amoureux de l'art, auteur et mécène, conscientionniste de renom, il a été ministre fédéral sous le gouvernement de Pierre Trudeau et aussi sénateur. Les questions des droits de la personne lui importent beaucoup, dont celles des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Voici les affirmations de Serge Royal. Affirmation, une série de balado-diffusion sur des personnes qui font la différence dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Bienvenue à Affirmation, Serge Royal.
Merci, je suis heureux d'être avec vous cet après-midi.
On est très content de vous recevoir. Vous êtes venu au monde le 1er février 1945 à Montréal, donc un vrai, de vrai Montréalais, je dirais, pur con d'orange.
Qu'il l'est demeuré tout le temps, d'ailleurs.
Vous n'êtes jamais parti de Montréal.
Non, exactement.
Comment c'était de grandir en ville?
Ben, je pense que... comme on dit communément, quand on regarde ça par en arrière, je crois que ça a été une opportunité, en autant que personnellement j'étais concerné, parce que je trouvais qu'à Montréal, il y avait plus de sollicitations. C'est-à-dire qu'on vivait moins dans un milieu familial fermé, parce qu'il y a toutes sortes d'activités en ville. Il y avait les grands magasins, d'abord, où ma mère nous amenait, chez Dupuis et Frères et chez Morgan, à l'époque, ce qui est la baie aujourd'hui. Et pendant la période des fêtes, évidemment, il y avait le fameux petit train au 5e étage. Sur notre rue où j'habitais, sur la 17e avenue à Rosemont, il y avait aussi des anglophones qui avaient leur propre église, Saint-Gabriel de Brandon, un peu plus au nord de Saint-François-Solano. Et puis, il y avait évidemment les loisirs du dimanche qui étaient très différents de ce à quoi on pouvait avoir accès en campagne, à la campagne. Par exemple, mon père nous amenait le dimanche après-midi au Château Ramsay. Mon frère et moi, on était subjugués par la locomotive Dorchester, qui est une réplique de la première locomotive de 1836 au Canada. Mon père nous amenait le dimanche également à Caughnawaga, aux danses autochtones, qui était un spectacle un peu imité de celui David Crockett,
oui,
et puis,
oui,
évidemment,
oui.
Les autres faux cow-boys de l'époque. Et puis, bien évidemment, le loisir que mon frère et moi, auquel on s'adonnait, c'était celui de jouer au cowboy et à l'Indien. Mmh. Alors, on était intéressés de voir des vrais Indiens, comment ils s'habillaient, comment ils parlaient, parce que dans nos jeux, on essayait d'imiter leurs cris, etc. Donc, c'est comme je vous souligne, on était exposés à une diversité sociologique et à des loisirs qui n'étaient pas nécessairement accessibles si... J'étais né à la campagne. Ça ne veut pas dire que quand on est en campagne, qu'on ne peut pas devenir des personnes influentes. Sir Wilfrid Laurier est né à Saint-Lin-des-Laurentides, mm-hmm. dans une petite
mais
maison.
Mais vous aviez accès à des événements culturellement et un peu partout. Donc, vous aviez accès à des choses qui étaient peut-être plus difficiles à une époque quand on habitait en région rurale.
Exactement. Et moi, en plus, évidemment, il n'y avait pas la télévision à cette époque-là. La télévision est arrivée dans les années 50, et puis au début, elle ne diffusait même pas à l'heure des repas. Elle suspendait diffusion à 5 heures pour permettre aux gens de dîner tranquille, comme on dit, sans la télévision au milieu de la table. Et puis les émissions pour enfants étaient évidemment diffusées vers 5 heures. Les émissions les plus populaires, c'était Rin-Tin-Tin. Mm-hmm. Des émissions qui, comme je vous souligne, étaient fondées essentiellement sur les légendes westerniennes avec...
J'allais dire, parce que ce que vous parliez des Autochtones à l'époque, si on avait une vision un petit peu
folklorique.
Très folklorique, ça a beaucoup
et puis,
changé, heureusement.
Oui, évidemment, mon frère était le cow-boy, moi j'étais l'Indien. Et puis j'aimais ça parce qu'on pouvait se promener torse nu. Évidemment, les Indiens, dans les livres, étaient toujours représentés torse nu. On pouvait se maquiller, se mettre évidemment du charbon de bois noir, se noircir un peu les côtés de la figure, etc. Donc, on avait un imaginaire, en d'autres mots, qu'on se construisait, qui n'est pas évidemment la façon de s'éduquer aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, on s'assoit devant un écran, puis l'écran nous déverse, évidemment, tout ce qu'ils veulent nous déverser. Ouais. Mais à cette époque-là, on était obligé de faire appel à notre imaginaire pour se créer un monde. C'est ça, fondamentalement, qui a marqué ma jeunesse.
Il semble que vous avez vécu dans une famille heureuse, puis vos parents vous amenaient un peu partout, on vous a fait découvrir...
Des parents, je dirais, d'un genre de vie solaire. C'est-à-dire que mon père et ma mère se sont toujours bien entendus, quoique c'était pas dans un, si vous voulez, dans une relation patriarcale. C'est-à-dire, c'est pas mon père qui dominait. Pour une raison très simple, c'est que la maison appartenait à ma mère. Et mon père avait ses magasins, donc lui aussi avait son domaine. Et l'entente entre les deux, c'était que ma mère gérait ses affaires et mon père gérait les siennes. Donc, je n'ai jamais vécu dans une relation patriarcale où c'est l'homme qui domine.
Vraiment, vous étiez à l'avance sur votre temps.
Très, très, en avance. Ma mère avait ses propres comptes de banque. C'est elle qui possédait notre maison à la campagne. Par conséquent, mon père était très respectueux de son autonomie de gestion. Alors, l'égalité des sexes, chez moi, ça a été, si vous voulez, j'ai vécu toute ma vie avec ça. Et mes parents ont vécu 63 ans ensemble. Et je me souviens très bien, quand je revenais du cimetière après le décès de ma mère, mon père m'a dit, « Tu sais, Serge, on ne vit pas avec la même personne 63 ans si on ne l'aime pas. » Alors, mon père, dans sa tête, avait rationalisé sa relation avec ma mère. Et donc, j'ai vécu dans une famille où les personnes étaient très respectueuses les unes des autres. C'est-à-dire que chacun avait sa ligne de vie. Et comme mes parents valorisaient considérablement l'éducation, mes parents nous répétaient toujours, « Votre éducation, c'est votre héritage. Quand vous serez éduqué, nous vivrons par nous-mêmes et vous ferez votre vie. » Donc, on vivait dans un contexte où, en définitive, on nous mettait au défi d'assumer notre liberté.
Tout à fait.
Et ça, c'est quand même assez particulier. C'était pas la situation dans plusieurs familles au Québec à cette époque-là.
Mais ça a quand même fait une personne, ça fait de vous une personne très intéressée par l'art, la culture et l'art autochtone. Parce que là, je venais de me raconter comment vous viviez avec vos parents.
Oui, on a toujours été, pour nous, les Autochtones, chez mon père, les ancêtres de mon père provenaient de Saint-François-du-Lac. Et Saint-François-du-Lac, pour ceux qui ne savent pas trop où ça se situe au bord de la rivière Saint-François, en face de la réserve des Abénaquis, qui est évidemment au Danac. Et donc, dans la famille de mon père, on avait côtoyé, en définitive, les Autochtones. Et la perception que j'ai obtenue des Autochtones, de mes parents et de la famille de mon père, c'est qu'on les laisse vivre comme ils veulent vivre et nous vivons comme nous voulons vivre. Mm-hmm. Donc, c'était pas une relation de domination où il fallait les civiliser, comme on disait autrefois, avec le missionariat, c'est-à-dire leur faire abandonner leurs pratiques, leur culture, leur langue, pour qu'ils s'assimilent à la population de souche européenne ou chrétienne. C'était pas la façon dont on percevait les Autochtones dans la famille de mon père. Et cette approche-là, si vous voulez, de valeur, parce qu'il y a des valeurs là-dedans, c'est celle que mes parents nous ont transmise, j'allais dire, inconsciemment. C'était comme ça qu'on devait penser. Et c'est resté dans mon esprit toutes ces années-là. Et quand j'ai eu l'opportunité d'intervenir pour rétablir les Autochtones dans leurs droits et surtout faire reconnaître leur langue, vous savez, ça m'a pris 10 ans avant de faire passer le projet de loi au Sénat qui a reconnu les langues autochtones.
Il fallait être tenace.
Alors, j'y croyais profondément. C'était attaché, en somme, à ma jeunesse, à toute fin pratique.
Si je comprends bien, vous aviez une jeunesse assez différente de celle d'autres garçons et filles de votre âge. Est-ce que ça vous rendait quand même différent? Puis je sais que vous étiez différent pour d'autres choses. Est-ce qu'à cette époque-là, les autres le voyaient? Est-ce que c'était visible?
Bien, on le voyait parce qu'évidemment, il faut dire aussi que j'ai eu une éducation qui a été avec les religieux jusqu'à, en définitive, mon entrée à la faculté de droit à l'Université de Montréal en 1964. Donc, j'avais été éduqué de l'école primaire jusqu'à l'université par des communautés religieuses, même si à l'école primaire, première, deuxième, troisième année, c'était des maîtresses, comme on les appelait à l'époque. le terme est aujourd'hui...
Le terme aujourd'hui
est un peu ambigu. Mais donc, c'était des femmes, essentiellement, parce qu'on trouvait qu'avec des enfants, des hommes ne pouvaient pas élever des enfants de 5-6 ans, là, disons.
Oui. Mais je reviens à votre...
On était encore des marmots, si vous voulez.
Je reviens quand même à votre jeunesse, parce que c'est toujours important. Moi, personnellement, je savais que j'étais différent quand j'étais jeune garçon. Le saviez-vous quand vous étiez plus jeune?
Non, pas vraiment, parce que... et là, je fais évidemment référence, si vous voulez, à la sexualité. La sexualité, c'est pas une chose que moi, personnellement, j'ai perçue à cet âge-là. La sexualité à cet âge, enfin, à cette époque-là, parce qu'il faut quand même se reporter, là, on est dans les débuts des années 50, c'est encore le règne de Maurice Duplessis. Maurice Duplessis oui. va régner, entre guillemets, jusqu'en 59, jusqu'en
C'était cette grande 59. Noirceur qu'on appelait à l'époque.
Donc, ouais. j'ai passé ma jeunesse sous le régime Duplessis, sous l'époque du triomphalisme de l'Église, et par conséquent, c'était une époque où, quand je vous le mentionnais tantôt, j'étais éduqué par des communautés religieuses. Je ne leur jette pas la pierre. Je n'ai jamais eu, fort heureusement, à subir des agressions ou, si vous voulez, à avoir une perception que j'ai été dominé intellectuellement par l'Église. Il faut penser que dans notre famille, même si on récitait le chapelet avec le cardinal Léger à 7 heures le soir, 4 soirs par semaine, que mon père aussi nous amenait à l'oratoire Saint-Joseph 2 fois par année pour allumer des lampions, qu'il fallait faire des neuvaines, faire les retraites du printemps à l'église, etc. C'est quand je raconte ça à mes neveux, ils ne me croient pas. Ils disent « Mon oncle t'exagère donc! »
Et pourtant, mais, non. Hein?
Mais ce que je veux souligner, c'est que malgré cet environnement qui était très lourd, on ne comprenait pas comme enfant tous les principes théologiques qu'on nous enseignait. Mm-hmm. Pour nous, le rite religieux, c'était, si vous voulez, un spectacle. Mon frère et moi, nous étions des enfants de chœur, alors il fallait porter une soutane avec un surplis. On servait la messe, il fallait apprendre les répliques en latin. On ne comprenait pas, évidemment, la langue qu'on parlait. C'était un automatisme, c'était comme une formule magique à toute fin pratique. Mais ce qui nous subjuguait, c'était la pageanterie, c'est-à-dire le spectacle. Autour de tout ça. Et ce spectacle-là, évidemment, stimulait notre imaginaire d'enfant. Et quand j'ai vu le film Roma de Fellini, je ne sais pas si vous imaginez scènes du film, où on voit évidemment toute l'Église dans ses atours les plus somptueux. On a l'impression que c'est évidemment une cour impériale qui se déplace. Alors nous, on faisait partie du spectacle. Et donc, malgré le fait qu'on vivait dans une ambiance hyper religieuse, on ne se sentait pas intellectuellement dominé, mon frère et moi. On participait au spectacle.
D'accord.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'assimilait pas les principes religieux. On apprenait l'histoire sainte, évidemment. Et pour nous, l'histoire sainte, c'était les bandes dessinées de l'époque. Il y avait les pharaons, il y avait les empereurs romains, les légions romaines. La construction des pyramides, etc. Et
c'était donc, spectaculaire. Quoi.
C'était très... Oui. Et on se projetait dans ce monde-là. Oui. Alors, on avait une perception de la religion qui n'était pas, malgré le fait qu'elle était extrêmement présente à tous les niveaux de la vie familiale et de la vie sociale, je ne me suis jamais senti dominé au point où je ne pouvais pas assumer ma liberté de penser.
D'accord.
Et forcément, comme vous savez, tout le système d'éducation, c'est pour amener l'individu à penser par lui-même ou par elle-même. Et malgré cet environnement-là, je ne me suis jamais senti empêché de penser par moi-même. Et puis, il fallait se confesser. Et puis, je n'ai jamais perçu les relations avec les personnes dans le sens du mal. C'est-à-dire que le péché nous dominait, la notion de péché, de culpabilité nous dominait tellement que si on ne faisait pas ce qu'on nous disait de faire, on était pour aller en enfer brûler au feu éternel. Mon frère et moi, nous ne croyions pas à l'enfer. On trouvait que c'était évidemment imaginé complètement, c'était une sorte de, comment dire, c'était pour nous faire peur, mais en pratique, quand mon frère et moi, on lisait des histoires comme celle-là, On s'adorait tous les deux, on se couchait ensemble, puis on tirait la couverte par-dessus notre tête, et puis on se défendait tous les deux ensemble. Alors, vous savez, on n'était pas... On avait gardé notre liberté, en définitive.
«
Et vous avez obtenu, donc, on va sauter un petit peu dans le temps, mais vous avez obtenu une licence en droit de l'Université de Montréal, un diplôme en études supérieures en droit comparé de l'Université de Strasbourg, une maîtrise en droit administratif de l'Université de Sheffield et fait la scolarité de maîtrise en droit constitutionnel au London School of Economics and Political Science. Wow!
Ben,
c'est pourquoi cet intérêt pour le droit, finalement?
Ben, vous savez, on peut dire parfois qu'on est suralimenté. Ben là, moi, je suis suréduqué. C'est-à-dire que c'était un peu, comme je le soulignais tantôt, mes parents croyaient à l'éducation. Ma mère croyait que, comme le disaient les grands slogans sur les panneaux qui entouraient le boulevard métropolitain, « S'instruire, c'est s'enrichir ». Pas uniquement sur le plan mercantile, avoir plus d'argent dans ses poches, mais c'était évidemment développer sa personnalité. Et ma mère croyait énormément à ça. Notre punition, quand nous pouvions mériter une punition, ma mère nous obligeait de lire une page de l'encyclopédie puis de la lui raconter après.
Alors,
en d'autres mots, notre punition, c'était de s'instruire.
Ouais.
Ma mère nous avait dit, mes parents, mon père nous avait dit, tant que vous voulez vous instruire, on paie pour. Parce qu'on estime que si vous voulez apprendre, ça vous sera toujours utile. À telle enseigne que quand j'ai été défait en 84, à l'élection générale de 84, mes parents étaient dans le local, évidemment, électoral. Et puis, bon, les organisateurs, les supporters, tout le monde était triste. J'avais été battu par une marge très, très faible, comme on dit presque une chance. Là,
c'était le raz-de-marée de
C'était le raz-de-marée, vraiment, la fin de oui. l'époque de Pierre Trudeau. Et puis les personnes disaient à ma mère, « Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? » Et ma mère, la réponse qu'elle leur donnait très calmement, « Ah, oh, vous savez, il y a tellement de diplômes, il va se trouver un emploi. » Donc, dans la tête de ma mère et de mes parents, l'éducation, c'était synonyme de liberté.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on ne serait pas victime du sort. On arriverait à se constituer, en définitive, une vie autonome. Comme je n'avais pas besoin de travailler en sortant immédiatement de l'université après une licence en droit à Montréal et l'admission au barreau, et que j'avais un goût pour les études, j'ai toujours trouvé que les études, pour moi, c'était comme une compétition. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais abordé les études comme un pinsomme. J'étais toujours intéressé, stimulé par apprendre quelque chose. Quand je commence un livre, je vais aller jusqu'à la fin.
Oui.
Alors, ben, de la même façon, en droit, quand je m'intéressais à une forme du droit qui était le droit public, le droit constitutionnel, ben, je voulais tout savoir dans ce domaine-là.
Donc, ça motivé.
Donc, c'était naturel pour moi de vouloir poursuivre des études dans les domaines où j'estimais que j'aurais un intérêt éventuellement de travailler, enfin de contribuer. Alors, ça ne m'a pas été imposé, je l'ai choisi naturellement, et puis mes parents m'encourageaient à ça.
Vous rendez-vous compte que vous avez été, Serge Royal, une personne privilégiée, parce qu'à l'époque, ce n'était pas tous les Québécois qui avaient l'accès à ça.
Bien, je pense que, je suis d'accord avec vous, mais je pense que l'élément déterminant, j'y ai réfléchi par après, parce que j'ai été le seul... pratiquement de ma promotion à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, de poursuivre des études à l'extérieur. Moi, ce qui m'intéressait dans ces études supérieures, c'était d'aller à l'étranger.
Oui.
Je voulais aller voir ailleurs comment ça se passait et je voulais, comme je vous le soulignais tantôt, je dirais pas par instinct de compétition, mais je voulais voir d'autres étudiants et voir comment ils pensaient, comment eux se définissaient. Et ma première préoccupation, c'était pas de rester au Québec et au Canada, c'était d'aller soit aux États-Unis, soit en Angleterre et en France pour voir comment eux concevaient le droit, comment ils l'exprimaient, comment ils vivaient. Et puis, évidemment, mon imaginaire qui avait été stimulé pendant toutes mes études secondaires, ben, je voulais aller voir le Louvre,
oui.
Ça avait l'air de quoi? Le tombeau de Napoléon, ça avait l'air de quoi? L'Arc de Triomphe, c'est quoi?
La Joconde.
La Joconde, c'est quoi? Je voulais aller en Angleterre, évidemment, parce que forcément, l'Angleterre fait partie de notre réalité. On a beau vouloir l'ignorer, c'est pas vrai.
Nos lois sont vraiment...
Notre droit criminel, tout le droit criminel est inspiré, comme vous savez, est inspiré directement du droit britannique. Alors donc, je voulais aller ailleurs. Et j'avais cet instinct-là d'être assez sûr de moi que, comme on dit, je pouvais prendre ma valise et aller vivre ailleurs.
Tout à fait.
Et me confronter à d'autres étudiants qui étaient probablement plus intelligents que moi et plus ouverts et plus connaissants que je l'étais moi-même. Donc, ces études-là, pour moi, ça avait, il y avait toutes sortes d'éléments dans cette idée-là d'aller poursuivre des études à l'étranger. Et quand on revient de l'étranger, on n'est plus la même personne.
Ça change beaucoup.
On n'est plus la même personne.
J'aimerais vous parler de confronter. J'aimerais vous confronter à vous-même. Comment avez-vous réalisé que vous étiez attiré par les hommes?
Ben, c'est une évolution qui s'est faite, j'oserais presque dire, naturellement. J'ai vécu avec des femmes. J'ai eu des aventures nécessairement avec des femmes. Et n'oubliez pas, moi, je suis venu, à l'âge adulte, à l'époque des années 60. Et les années 60, c'était quoi? C'était le peace and love. C'est-à-dire que on sortait du cadre traditionnel où on n'avait pas de relation sexuelle avant le mariage. Vous savez, c'était toute la morale était à cette époque-là. C'est on se mariait pour avoir des enfants. Et puis, bien évidemment, nécessairement, il fallait garder le privilège de la relation sexuelle avec sa conjointe. Et c'était le cadre familial qui s'imposait jusqu'aux années 60. Aux années 60, quand l'idée de l'amour libre est devenue une sorte d'autre façon de vivre, ben, on n'avait plus l'obligation de s'astreindre à une relation, j'allais dire, monogame, mm-hmm. avec une seule personne. On pouvait faire des... En fait, le contexte social de l'époque, comme je vous souligne, du peace and love,
oui.
c'était de dire, ben, on peut avoir des expériences différentes avec des garçons, avec des filles. C'est maintenant la manière contemporaine de se comporter. Et donc, ça, c'était ça qui apparaissait comme étant, si vous voulez, la rupture par rapport à la société précédente. Alors, moi, j'ai connu cette vie-là. D'abord, premièrement, comme vous le savez, je vous disais, je vivais à l'étranger. Donc, je n'avais pas de contraintes du milieu immédiat, de la famille ou des amis. Je devais me faire une vie personnelle par moi-même. Et puis, ben, forcément, on rencontre des personnes, on est attiré par des personnes. Et j'étais attiré par des filles, j'étais attiré par des garçons. Et par conséquent, ça n'a pas été une expérience, comment dirais-je, qui a été forcée sur moi.
C'est pas foudroyant, c'est arrivé comme
non,
ça.
Non, c'était comme ça, c'était l'air du temps, comme c'est on ça. Dit communément. Aujourd'hui, quand je regarde ça, c'est très différent. Il y a eu le sida, évidemment, qui a modifié complètement cette approche d'amour libre, parce que l'amour libre sans protection, c'était synonyme de risque mortel.
Mm-hmm.
Et surtout, moi, j'ai eu des amis immédiats qui sont décédés très rapidement quand le sida est apparu, dont des amis intimes. Alors, j'ai vécu la tragédie du sida pratiquement dès 1984-85. Et je voyais autour de moi les gens décédés l'un après l'autre. À l'époque, l'été, je passais l'été à Provincetown, qui était probablement l'endroit le plus libre sur la planète. Et d'une saison à l'autre, c'est-à-dire d'un été à l'autre, toutes les personnes que j'avais connues, la moitié étaient décédées pendant l'hiver. Alors, donc, la société a basculé à ce moment-là.
Oui.
Et on est... Aujourd'hui, quand je regarde ou quand j'observe comment mes neveux, mes nièces, la nouvelle génération se comportent, ils n'ont pas connu la période de la libération totale.
Non.
Moi, je l'ai connu, je l'ai vécu. Et par conséquent, comme c'était le contexte de l'époque, mes parents n'étaient pas du tout moralisateurs.
Mais avez-vous dit que vous aviez une attirance vers les hommes et les femmes?
On n'a jamais eu à en discuter comme tel parce mm-hmm. que mon père, qui était un libéral de philosophie,
oui.
C'est-à-dire on laisse chacun faire sa vie comme il veut. Et en plus, mon père est un très bel homme. Et puis, ben, évidemment, nécessairement, il attirait les femmes et il attirait les hommes. Et puis, quand il nous racontait ça, de façon très détachée, on en riait, évidemment, parce qu'on savait qu'il n'était pas gay. Mais il réalisait qu'il y avait des hommes qui étaient attirés par d'autres hommes. Et puis, ça ne le scandalisait pas du tout, ça le flattait. Alors donc, j'avais pas... Ma mère était plus conservatrice parce qu'elle était originaire de Joliette, la patrie d'Antonio Barrette, des conservateurs de Duplessis qui habitaient à deux maisons de chez ma grand-mère.
Oui, oui, oui.
Donc, Antonio Barrette était une sorte de, d'incarnation, enfin, de, du meilleur de ce que le système pouvait à l'époque représenter. Et elle était un peu plus conservatrice, mais elle s'est rajustée, si vous voulez, au monde de l'époque quand mon frère, mon frère aîné, a décidé de ne pas aller à la messe de minuit. Alors, cette nuit de Noël, ma mère a pleuré parce qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'un membre de sa famille n'irait pas à la messe de minuit. Et ça lui a pris un certain temps pour s'adapter au fait que la religion, c'était une décision personnelle. Ce n'était pas un choix social imposé par la famille ou par le milieu de la société où on vivait. Et en plus, évidemment, c'était à l'époque de la discussion, évidemment, publique sur l'usage de la pilule contraceptive. Mm-hmm. Et ma mère était tout à fait ouverte à discuter de ces questions-là. Elle écoutait les émissions du père Marcel-Marie Desmarais, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Pas du tout.
Qui avait une émission à la radio où, sous des allures très ouvertes, parce qu'oubliez pas, il y avait eu Vatican II, où l'Église, évidemment, s'était libéralisée, entre guillemets, où ma mère, évidemment, pour elle, prendre la pilule, c'était vraiment un geste contre nature, mais elle suivait la méthode Augino, qui était la méthode de la fertilité déterminée par le calendrier. Alors, on discutait de ça chez nous. Vous savez, ouais. c'était pas un secret ou un tabou ou quelque chose qu'il fallait... soulever la porte fermée. On discutait ça autour de la table à déjeuner et, ou à dîner. Et par conséquent, malgré le fait que, comme je vous souligne, la société évoluait, chez nous, elle évoluait naturellement, ouvertement. Donc, il n'y a pas eu de, comment dirais-je, de confrontation ou il n'y a pas eu de scandale. La grande rupture, elle s'est faite, comme je vous dis, chez ma mère, le jour où elle a dû réaliser que la religion, c'était un choix personnel et non pas un choix dicté par le milieu dans lequel on vit. Et ça a conditionné tout le reste, j'allais dire, de l'adaptation au monde contemporain.
Vous écoutez Affirmation avec Serge Royal. Nous allons faire une courte pause pour ceux qui nous écoutent à la radio, ceux qui nous écoutent en balado-diffusion. On revient tout de suite. Serge Royal est d'abord un juriste de renom, très engagé dans la protection des droits de la personne. Il s'est impliqué dans tous les débats pour faire avancer ses droits, notamment ceux des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Serge Royal a été ministre fédéral et sénateur et un militant gay, mais oui, mais à sa façon. Voici les affirmations de Serge Royal. Affirmation, une série de balado-diffusion sur les gens qui font la différence dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Serge Royal, donc, vous avez fait un non-coming out, hein, qu'on pourrait dire, dans votre famille.
Oui, un non-coming out, mais les journalistes que je côtoyais à l'époque où j'étais député, dans les années 70, se questionnaient de savoir si j'étais gay ou non. Et en particulier en 1976, pendant la crise des gens de l'air, j'étais très, très souvent, évidemment, sur les plateaux de télé, dans les interventions publiques et le reste. Et puis, bien évidemment, à la tribune de la presse à Ottawa, les journalistes francophones que je côtoyais plus souvent, entre eux, évidemment, quand ils prennent un verre, se demandaient, « Joyal, es-tu gay? » Et puis, à un moment donné, comme... personne n'arrivait à une conclusion là-dessus, ils se sont dit, on va lui envoyer une Matahari. C'est-à-dire, il y avait une journaliste parmi eux, Diane Proulx, qui s'est dit, ben écoutez, moi, je vais me porter volontaire. Je vais l'inviter à dîner, puis on verra si ça va aboutir à quelque chose.
C'est incroyable, hein?
Alors, Diane Proulx, qui est par la suite devenue l'épouse d'un de vos confrères à l'époque, Jean Pelletier, qui évidemment était journaliste pour le journal La Presse. Son père était évidemment Gérard Pelletier. Ancien éditeur de La Presse. Et donc, je me suis retrouvé, évidemment, avec Diane Proulx à dîner, un soir. Et puis, on s'est tellement bien entendus, puis le vin aidant pendant le repas, elle me dit à la fin, « Écoute, c'est un piège que je suis supposé de te tendre et le reste, bon. » C'est vous dire que...
Vous n'étiez pas fâché d'entendre ça?
Elle a dû faire son rapport après, parce qu'évidemment, elle avait été missionnée, comme on dit, pour aller, vérifier si j'étais gay ou non.
Vous, quand elle vous a dit ça, mais ça, moi, j'aurais été un peu fâché, non?
Ah non, au contraire, on est devenus les meilleurs amis du monde. On est devenus les meilleurs amis du monde parce qu'on avait une relation franche.
Oui.
Moi, je n'avais pas à faire d'aveu. Et puis, évidemment... À cette époque-là, on essayait toujours quand même d'identifier les gens parce que, n'oubliez pas, c'était l'année 76. En 77, il y avait les descentes à Montréal dans les saunas, au bar Trux, etc. Oui, oui. La police de Montréal était encore très engagée dans une lutte anti-gay.
Si longtemps que ça, là.
Ça fait pas si longtemps que ça. Alors, malgré, vous savez, le fait que l'homosexualité avait été dépénalisée par le bill omnibus de Pierre-Éliott Trudeau en 69. Il en demeure pas moins que 10 ans plus tard, il y avait encore la chasse aux gays à Montréal. Et tout ça, évidemment, sous le fouet du maire Drapeau. Et à telle enseigne qu'en 78, quand j'étais candidat à la mairie de Montréal, j'avais toutes sortes de bénévoles autour de moi. Et à un moment donné, je reçois un appel d'un journaliste de la station de radio CKAC qui m'a dit « Monsieur Joyal, votre chef de cabinet a été déjà arrêté par la police dans une affaire de mœurs. » Alors, j'appelle mon chef de cabinet, je lui dis « As-tu déjà été arrêté pour une affaire de mœurs? » Je dis « Jamais de ma vie. » Alors, c'était une enquête que la police de Montréal avait faite dans ses dossiers pour identifier parmi les personnes qui m'appuyaient et qui faisaient partie de l'équipe une personne qui aurait pu avoir été accusée ou arrêtée pour des activités dites obscènes et évidemment dévoiler ça dans l'opinion publique que l'entourage du candidat à la mairie contient des personnes qui ont été arrêtées pour... des activités d'obscénité publique.
Parce qu'on n'utilisait plus l'homosexualité, on utilisait les mœurs ou les... Comment est-ce qu'on disait? Comportements...
Comportements déviants.
Oui.
Alors, donc, c'est vous dire qu'en 78...
Oui, grossière indécence, c'est ça.
Grossière indécence. Oui. En 78, à la ville de Montréal, à la haute direction de Montréal, à la police de Montréal, on essayait encore, comme on dit, d'attraper les gens. Alors, c'est vous dire que quand vous me demandez, mais vous avez fait votre coming out comment? Ben, je vous dis, on vivait à cette époque-là encore une sorte de répression quand même très visible et j'allais dire très directe qui pouvait ruiner la
réputation
de la personne.
Fallu que,
J'avais 52 candidats avec moi, dont une quinzaine de candidates féminines. C'était la première fois dans une élection municipale où il y avait autant de femmes qui se présentaient avec moi. Et donc, on pouvait à ce moment-là, si vous voulez, détruire complètement la crédibilité d'un choix politique, d'un parti, parce qu'on dit à la tête de ce parti-là, il y a des gens qui ont été accusés de grossière indécence, etc., ce qui s'est révélé, ce qui était faux.
Oui.
Mais c'est vous dire que il n'y a pas si longtemps... c'était encore un élément de très grande, d'un risque énorme sur le plan politique. Et je dois vous dire que quand M. Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, m'a appelé à son bureau pour me mentionner qu'il était disposé à me nommer au cabinet, il m'a dit textuellement « Je sais que vous êtes homosexuel Et si vous vous faites attraper avec des jeunes, je devrais vous renvoyer du cabinet immédiatement.
Oh,
je veux que
Dieu.
Vous soyez averti. Et là, je dois vous dire, les deux bras m'ont tombé du corps, littéralement, parce que moi qui avais présidé l'année précédente l'adoption de la charte, je croyais que la charte protégerait les minorités sexuelles. Et je voyais que je réalisais tout à coup que M. Trudeau avait les mêmes préjugés que ceux qui sont véhiculés par certaines églises, que si vous êtes gay, vous êtes pédophile. Il faisait pratiquement l'association directe entre le fait d'être gay et le fait d'être pédophile. Et le fait d'être pédophile, c'est une déviance. Et par conséquent, vous étiez gay, vous étiez déviant. Et savez-vous ce que je lui ai répondu? J'ai dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, je vis avec une personne d'âge mûr. En voulant dire, mon truc, moi, c'est pas les enfants ou les adolescents, c'est les hommes mûrs. Mais alors, comme... je lui ai répondu directement cela.
Et... Mais ça, ça prend du culot, parce que Pierre Trudeau n'avait pas la réputation de d'aimer se faire contredire.
Non,
hein?
Sauf qu'après, quand je suis sorti de son bureau, ce qui me préoccupait mentalement, c'était pas le fait que j'entrais au cabinet, c'était le fait de dire, mais comment Trudeau peut penser comme ça quand son meilleur ami, c'était Jacques Hébert, et puis je fais pas le coming out de Jacques Hébert, mais Jacques Hébert avait été marié, avait des enfants, et puis il était gay. Et puis, Trudeau s'était baladé en Chine avec lui, quand deux innocents dans la Chine rouge, là, c'était le livre, ils ont publié. Et Trudeau l'a nommé au Sénat. Alors, est-ce qu'il y a eu cette conversation-là avec Jacques Hébert avant de le nommer au Sénat? Jacques, si tu te fais attraper par des jeunes, je vais être obligé de... Ben là, il ne pouvait pas le dénommer du Sénat, parce qu'une fois que vous êtes nommé au Sénat, le premier ministre ne peut plus vous dénommer, mais le Sénat peut prendre une mesure, enfin, de disciplinaire contre vous, le reste. Alors, tout cela pour vous dire que... ça, c'était en 1981. Ça fait pas si longtemps que ça, là.
Ouais.
Et c'est par... Et je ne dis pas ça pour atteindre à la réputation de M. Trudeau, mais
c'est était un homme de son époque.
Mais c'est pour vous dire, c'était l'époque.
Ouais.
Et je vous assure que si, en 1981, quand on a adopté la Charte des droits et libertés, si les 9 ministres des provinces et le premier ministre du Canada avaient su que, 20 ans plus tard... Les 11 tribunaux au Canada en viendraient à la conclusion que le mariage civil était protégé par la Charte, ils n'auraient pas voté la Charte. Parce qu'ils auraient dit, ben non, on n'est pas pour légaliser le mariage entre deux hommes ou deux femmes. Voyons donc, c'est insensé.
Vous nous en dites des choses aujourd'hui qu'on n'a pas entendu avant.
Mais vous comprenez, à cette époque-là, on n'aurait jamais imaginé que la Charte, que les... 9 hommes adoptaient, les 9 provinces plus le gouvernement canadien. Donc, les 10 premiers ministres signaient un document qui allait ouvrir le mariage aux personnes du même sexe. S'ils avaient su ça à cette époque-là, ils ne l'auraient pas signé. Pas plus qu'ils ne l'auraient signé s'ils avaient compris à cette époque-là que les Autochtones établiraient une relation de nation à nation avec les gouvernements à travers le Canada.
Je vais revenir sur la charte, parce que vous avez beaucoup travaillé sur cette charte des droits et libertés au Canada. Les mots orientation sexuelle n'étaient pas inclus,
non,
parce que c'était impossible.
Absolument.
C'était impossible de le mettre à cette époque-là.
Ben, c'est-à-dire que c'était pas impossible parce que Sven Robinson, qui était le premier député fédéral à se déclarer ouvertement gay, siégeait sur le comité et il avait proposé un amendement à la charte et c'est moi qui présidais cette journée-là. Et quand il a eu déposé son amendement, j'ai dit publiquement, comme président, j'appuierai cet amendement-là. Et M. Chrétien était le ministre de la Justice à l'époque et M. Chrétien avait la responsabilité, comme ministre de la Justice, de commenter sur les amendements, de faire valoir son point de vue. Et sa raison fondamentale était la suivante, c'est de dire, on est mieux d'adopter une charte qui utilise des mots très larges comme sexe que orientation sexuelle pour s'assurer que, dans l'avenir, l'interprétation de la charte puisse évoluer avec la société.
Et c'est ce qui est arrivé.
Et je vous raconte une autre chose qui s'est produite, c'est que quand les 11 tribunaux se sont prononcés pour dire « le mariage est une institution qui doit être ouverte également » aux hommes et aux femmes, indépendamment du fait qu'un couple, c'est un homme et une femme, M. Chrétien a convoqué le caucus pour consulter les députés et les sénateurs sur ce qu'ils devaient faire. Et quand mon tour est arrivé d'aller au micro, je lui ai dit ceci. « Monsieur Chrétien, vous souvenez-vous, il y a 20 ans, ce que vous avez dit comme explication pour soutenir qu'on ne devait pas introduire le mot « orientation sexuelle », mais garder le mot « sexe » pour que la société puisse s'adapter, la charte puisse s'adapter à l'évolution de la société. » Et là, je lui ai dit, actuellement, là, on est arrivé là. C'est là où on est arrivé, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on doit faire pour respecter la charte qu'on a adoptée il y a 20 ans. Et je l'ai regardé dans les yeux, là, les deux yeux comme deux mitraillettes, là, et il m'a regardé puis il a fait un signe de tête en voulant dire « oui, je m'en souviens ». Et ça a changé la position du gouvernement.
Wow! Je trouve ça intéressant parce que ça fait de vous, finalement, les gens qui se disent « bon, ben c'est les gens de cette génération, parce que c'est un peu la mienne aussi, parce qu'on n'est pas, on n'a pas une si grande différence d'âge. Cette génération, ben on était plus discret, peut-être. Moi, j'étais moins que vous, mais on était plus discret sur ce qui on était. Mais vous avez quand même été militant à votre façon. »
Ah oui, ben j'étais non seulement militant à ma façon, mais j'étais très conscient d'être ce que je suis. Et à l'époque... J'essayais pas de me cacher. Je vivais comme selon la manière d'être que j'estimais être la mienne. Et mon conjoint venait avec moi dans des activités publiques. Et puis les gens se demandaient, ben, vis-tu avec, oui ou non? Alors c'est un peu comme ce que je vous raconte dans les années 70 avec les journalistes qui se demandaient si j'étais gay ou non. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours cru que il ne fallait pas, comme gay, que nous diminuions notre crédibilité de gérer les institutions où la majorité des personnes sont hétérosexuelles. Moi, je ne crois pas que les gays doivent gérer les gays. Je crois que les gays doivent gérer la société.
Tout à fait.
Indépendamment de ce que peut être l'identité des personnes qui sont devant nous. Et la meilleure illustration que je puisse vous donner de cela... c'est que j'ai été président du comité de l'éthique du Sénat pendant 16 ans. Et c'est un poste qui était électif, au scrutin secret, comme le pape. Alors, c'est-à-dire qu'à tous les deux ans, les sénateurs devaient voter pour choisir le président. Et moi, évidemment, j'avais à, nécessairement, comme président, à prendre connaissance... des rapports d'enquête sur les sénateurs, autant sur le plan de leur conduite publique que sur leur conduite personnelle qui aurait pu avoir un impact sur leur profession, sur leur activité parlementaire. Et j'ai toujours pensé que le fait d'être gay et d'être reconnu comme gay, ça ne devait pas empêcher les gens de dire « on vote pour Joyal, il est objectif, il est rigoureux et il respecte ce que nous sommes. Et nous respectons ce qu'il est. » Et j'ai trouvé que c'était le plus grand témoignage que les sénateurs m'ont donné de me réélire constamment à ce poste-là pour les juger dans leur conduite et recommander si le Sénat allait les expulser ou non. Il faut quand même le faire, là. Alors, moi, je crois... ça, c'est ma conviction très profonde. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi, parce qu'on est gay ou pas gay, on devrait être défranchisé d'avoir des responsabilités les plus ultimes sur la vie des personnes.
Il y a tellement de choses à dire sur ça, Joël. D'abord, il y a une question qui me trotte en tête. Vous m'avez parlé de votre conjoint. Vous avez été ensemble longtemps. Vous êtes encore ensemble?
Oui, depuis, 24 ans.
24 ans?
Oui.
C'est quand même quelque chose. Hein? Quand on sait que dans les communautés diversité, c'est un petit peu plus difficile d'avoir des relations qui durent aussi longtemps.
Mais comme dit mon père, on ne vit pas avec la même personne 24 ans si on ne l'aime pas.
Ah, c'est beau. Et votre conjoint, je ne vous pose pas de questions. Si vous ne l'avez pas identifié, c'est qu'il ne veut pas être identifié. Mais comment est-ce qu'il vit ça, lui, d'être avec une personne aussi connue que vous?
Bien, évidemment, forcément, comme... quand je vais acheter mon journal, les gens me reconnaissent, alors que lui, il est moins impliqué dans la vie publique. Il a des responsabilités publiques, mais il n'est pas impliqué dans la vie publique, évidemment, du tout comme moi je l'étais. Donc, il n'a pas, je n'oserais pas dire subir, mais il n'a pas, évidemment, composé avec le fait que, quand on a été dans la vie publique comme moi pendant aussi longtemps, écoutez, moi, j'étais chef étudiant avec, à l'époque de Bernard Landry et de Pierre Marois, donc dans les années 63-64. Alors, c'est vous dire, ça fait 60 ans que je suis dans la vie publique. Alors, il est évident que pendant toutes ces années-là, on doit évidemment respecter les personnes pour ce qu'elles sont. Et lui, évidemment, comme on dit, n'a pas assumé cet aspect-là de la vie sociale. Et puis, comme je reste encore très impliqué dans plusieurs domaines de l'activité publique, ben forcément, je continue de me comporter comme je me suis toujours comporté.
Je vais faire une
blague. Dans le plus grand respect des personnes avec lesquelles je suis en contact.
Puis c'est vraiment pas un reproche, c'est juste pour vous souligner jusqu'à quel point vous êtes occupé. Quand j'ai demandé cette entrevue, on a dû se prendre plusieurs semaines d'avance parce que vous avez tellement de rendez-vous un peu partout.
Ben, je suis encore très impliqué avec les relations du Sénat à Paris. Je suis membre de l'Institut France-Amérique. J'ai encore beaucoup d'activités liées au mécénat au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je suis le président du comité d'acquisition d'art décoratif.
Puis c'est ce qui fait que vous avez toujours, puis que je l'ai dit tout à l'heure, vous avez toujours l'air jeune. Des fois, je vous regardais, je dis, mais il n'a pas changé de miette.
Bien, il n'a pas changé de miette. Disons que la mémoire s'accumule. Enfin, heureusement, quand je vois l'ordinateur, je me dis, c'est merveilleux. Le cerveau humain peut en assumer, vous savez, c'est comme nos téléphones cellulaires, on prend toutes sortes de photos, puis à un moment donné, on se dit, là, vous en avez 2000, il faut que vous fassiez les mondages.
Il faut faire les mondages.
Ouais. Dans nos souvenirs, on n'a pas à faire les mondages, au contraire, ça s'accumule. Et puis, en plus, évidemment, on voit le monde évoluer. Moi, je trouve que la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, évidemment, c'était de voir le monde évoluer. Et là, on est dans une période extrêmement difficile. Probablement, je ne dirais pas peut-être la plus difficile que j'ai connue dans mon existence, mais les guerres sont revenues très présentes à nos portes. Comme je vous le mentionnais tantôt, je suis très souvent présent à Paris, et là, on sent la guerre.
Oui.
On sent que la guerre, c'est dans les frontières européennes.
Mais le monde s'est polarisé. Hein?
Et puis, évidemment, on connaît le conflit au Moyen-Orient.
Oui.
On voit ce que ça a donné en Afghanistan. À chaque jour, les médias, ou régulièrement, les médias nous rapportent ce que c'est ne pas vivre sous la liberté.
Oui.
Là, en Afghanistan, les femmes ne peuvent pas se parler entre elles en public. C'est délirant. Et puis, quand on voit le résultat, évidemment, de la campagne électorale qui s'est passée au Sud, moi, j'habite en partie aux États-Unis l'été, donc j'ai quand même des amis américains, etc., et qu'on revient au Canada, on dit, mon Dieu, les peuples russes sont des peuples sans histoire. Je veux dire, c'est pas parfait le Canada, puis le Québec non plus, mais au moins, on a un niveau de liberté qui est unique au monde. Enfin, il faut quand même le dire et réaliser qu'il faut continuer d'être très conscient que si on n'est pas alerte pour protéger cette liberté-là, on va faire comme les autres, on va la perdre.
Parce qu'elle est menacée aux États-Unis, entendons-nous. Le parti qui soutient Donald Trump, je ne veux pas les républicains, mais le parti républicain de Donald Trump, on s'entend, parce que ce n'est pas la même chose, mais ce parti-là est au pouvoir, à l'écoute des franges. C'est un parti qui a ciblé, pointé du doigt certaines des personnes de nos communautés. Ça peut venir ici, ça.
Ben, ce que je trouve le plus nocif, c'est que c'est de faire sa politique sur le dos des minorités. Comme DeSantis, le gouverneur de la Floride,
c'est épouvantable, là-bas, ouais.
Et comme plusieurs gouverneurs le font, ils ciblent les minorités, comme M. Trump le fait avec les Haïtiens, là, à Springfield. On cible une minorité, c'est cette minorité-là qui nous menace dans ce que la société idéale doit être. Et cette approche-là, on n'en est pas immunisé. Parfois, j'écoute les commentaires qui se font sur les immigrants au Québec. Ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'une de ces communautés immigrantes devienne le bouc émissaire de ce qui va mal dans la société.
Mais on le voit aussi en Alberta, où il y a des lois qui ont été passées très, très, très anti-trans.
Dans Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick. Oui. Là, le gouvernement vient de changer au Nouveau-Brunswick. Mais évidemment, on utilise le prétexte des libertés élargies pour interpréter ça comme une menace à ce que j'appelle l'hétéronormativité traditionnelle. Alors, on ne faut pas croire qu'on est à l'abri de ce que j'appelle, comme on disait autrefois dans l'Évangile, le vent mauvais qui souffle sur nous. On reçoit les effluves de toutes ces discriminations-là dans le vent qu'on respire, dans l'air qu'on respire. Et il faut rester extrêmement alerte qu'on peut, nous aussi, dévier. Il y a des gouvernements qui peuvent dévier. Et comme je vous souligne, le discours le plus facile pour plusieurs milieux politiques, c'est de s'en prendre à une minorité. Et c'est cette minorité-là qui est la source de tous nos maux.
Ça fait diversion, puis...
Évidemment, ça remonte au Moyen Âge, hein, comme vous savez, avec la chasse aux sorcières, hein. C'est le même syndrome humain de singulariser une personne ou un groupe et de dire la peste vient d'eux, la peste venait des mendiants, la peste vient des sorcières, des femmes qui deviennent les agents du diable, etc. C'est très, très facile. Et puis, évidemment, il y a aussi ce qu'on voit également, on le voit aux États-Unis, c'est l'importance que les groupes évangélistes prennent dans le débat public et l'influence qu'elles obtiennent dans le débat public. Et je ne veux pas dire qu'on ne peut pas pratiquer sa religion comme on veut le choisir ou s'y identifier, mais lorsque la religion devient trop prenante ou prégnante dans le débat public, nécessairement, on établit des exclusions. Et ça, à mon avis... C'est le risque que l'on court aujourd'hui que je ne croyais pas quand on faisait tout ce débat de la liberté qu'on cherchait à se donner dans les années 60-70, que, la pendule ferait un tour et puis qu'on reviendrait à ce niveau-là. Mais il faut en être bien conscient.
Mais on sent qu'il y a encore du feu en vous si ce genre de situation-là perdure. J'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir Serge Royal qui va dire « Attends un petit peu, moi, je vais intervenir dans le débat. »
C'est fort possible. Je regarde comment ça évolue. Quand je dis « je regarde », au sens où je suis très directement ce qui se passe. Et si je crois que je peux apporter une contribution dans le débat public, soit dans la discussion publique, soit devant les tribunaux, je reste toujours avocat et j'ai toujours reconnu que les études de droit que j'avais faites, c'est-à-dire la suréducation que j'avais obtenue en droit, me seraient utiles pour contribuer à cette réflexion-là et à cette évolution-là.
On n'a pas eu le temps de parler, mais vous êtes aussi auteur, vous avez écrit plusieurs titres, dont « Le mythe de Napoléon au Canada français », vous avez aussi écrit « Le Sénat en vérité ». Ça, c'est des trucs, vous avez eu un goût de l'écriture en quelques minutes. Qu'est-ce que vous a attiré à écrire?
Écrire, c'est évidemment se prolonger dans le temps. C'est-à-dire que vous et moi, on peut avoir une conversation aujourd'hui, mais si elle n'était pas enregistrée, si elle n'était pas accessible, elle serait très intéressante, bien sûr, mais personne d'autre pourrait en prendre connaissance. Quand on écrit, on se bat contre l'oubli. C'est une façon de se situer dans le temps. Et d'autres pourront en prendre connaissance dans les années à venir, et on restera présent dans l'esprit des personnes. Et donc, c'est faire confiance à l'intelligence des personnes que d'écrire, parce que ça nous permet d'être présents dans l'espace-temps. Et ça, j'y crois très profondément. Et je pense qu'avoir appris à écrire par moi-même, je trouve que c'est un outil formidable. Et je ne m'en prive pas, parce que j'y trouve un agrément. Et j'y trouve surtout une exigence, parce que quand on écrit, on se commet.
Oui.
On reste responsable de ce qu'on écrit. Et par conséquent, d'ailleurs, j'avais une discussion avec M. Trudeau à ce sujet-là. J'ai demandé s'il voulait écrire ses mémoires, le reste. Puis j'ai dit, allez-vous écrire vos mémoires pour qu'on... Je lui ai presque dit pour qu'on sache enfin ce que vous pensez. Et il m'a dit, ah, je vais laisser les autres écrire.
Ah, c'est drôle.
Il ne voulait pas prendre le risque de, d'être interprété différemment que ce qui était dans le domaine public. Bon, c'est une position, je la respecte, Moi, je crois que écrire, c'est de prendre le risque d'être dans le débat public. Bon, le débat peut dévier avec les réseaux sociaux, c'est certain, on le voit aujourd'hui. Sauf qu'il ne reste qu'un livre ou un CD, CD-ROM. C'est une façon de continuer d'être présent au monde, même quand physiquement on n'est plus là. Et ça, je crois profondément ça.
Ah mon Dieu, on aurait pu en prendre pendant une autre heure de vous écouter, Serge Voyant. C'était tellement intéressant et surtout ce regard qu'on ne connaissait pas sur tout le débat qui a amené l'adoption de lois et d'actes constitutionnels qui ont changé les choses dans notre pays. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là aussi pendant ces années. Puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Espérons qu'il y aura encore beaucoup d'années à venir.
On va l'espérer. On remercie Maurice Bolduc à la mise en onde aujourd'hui, Géry Ormelette aux réseaux sociaux et communications. Je m'appelle Denis-Martin Chabot, j'anime et je réalise Affirmation, une production de Canal M, la voix de l'inclusion, la radio de Vues et Voix.